Histoire des îles Marquises, de Akakayo te Henua Enana, te Fenua Enata. Une série de 60 émissions conçues, réalisées et racontées par Jacques Jacopo Pello.
Chers amis des îles Marquises et du reste du monde, ka ohanu, et bienvenue dans cette 14e émission,
édition 2023,
qui est aussi la dernière des trois dédiées au tapu. Après avoir vu ce qu'était la fonction de chef haka'iki, nous avons regardé les différentes couches tapu et kikino de la société marquisienne ancienne et les différentes catégories de tapu. Aujourd'hui, le moment est venu pour nous de nous tourner vers le fonctionnement du tapu, c'est-à-dire les manières de l'imposer ou de le lever, et aussi la manière dont il était géré. Nous terminerons l'émission en essayant de comprendre comment l'arrivée des étrangers, qui ne respectaient pas le tapu, a porté un coup fatal à la société traditionnelle Enana. En préambule, je rappelle aux auditeurs que ce sont les lectures d'ouvrages déjà mentionnés qui m'ont éclairé sur tout ce dont nous allons parler maintenant. Comment le tapu fonctionnait-il et tout d'abord, quelles étaient les procédures d'imposition du tapu? En procédant par ordre chronologique, nous allons voir ce que les gens qui ont vécu aux Marquises nous en disent. De 1798 à 1806, l'anglais Robarts, dont nous avons déjà parlé, a vécu à Taiohae avec une des sœurs de Kiatonui. Il était considéré comme chef et appartenait à la classe Tapu. Il nous a laissé son journal, dans lequel il raconte cette période de sa vie. À plusieurs reprises, il écrit qu'il utilise une lance pour interdire à des gens l'accès à la nourriture, ou bien au contraire, pour le leur permettre. Il signale aussi que, afin de protéger une personne en danger immédiat, une femme importante peut la rendre tapu en lui jetant dessus sa cape manteau kahu. Voyons maintenant ce que nous dit Porter. Fin 1813, afin de pouvoir visiter les lieux de culte sans restriction, Kiatonui accorde à Porter un tapu personnel en lui remettant un ruban de tapa blanc détaché du lobe d'une de ses oreilles que Porter fixe à son chapeau. Seul signe suffit à Porter pour aller et venir à sa guise sur les Me'ai et autres sites tapu de la vallée. La couleur blanche, on le sait, est regardée comme sacrée tapu. Afin d'interdire les pai pai tapu aux femmes, on a dressé des faisceaux de hao, hibiscus tilaceus, dont on a retiré l'écorce et qui donc sont blancs, et auxquels sont fixées des bandelettes de tapa blanc. Porter nous dit aussi qu'un drapeau blanc est un signe de paix et désigne dans l'île les lieux les plus tapu.
Comme déjà mentionné dans une précédente émission, c'est en 1927 que parut Le paganisme ou la religion des Marquisiens, du père Siméon Delmas. Voici ce qu'il dit du tapu aux pages 62 et 63 de son ouvrage.
Il est inutile de chercher l'origine du tapu. Elle est toute naturelle. Et ce n'est pas du tapu qu'il faut s'étonner, mais de son extension dans le Pacifique. La pratique normale du tapu, consécration, bénédiction, défense, pénitence, constitue toute la religion, les chefs et les prêtres l'ont pris à leur service. C'est tout.
Et il continue.
L'exercice du tapu, c'est l'inspiration d'un dieu descendu dans un homme et parlant par sa bouche pour interdire ou prescrire quelque chose. L'homme, oublieux de la révélation primitive, resté avec son infinie petitesse en face de l'infinie grandeur, éprouve une intime impression. Il cherche avec inquiétude avec qui il a affaire, de qui il dépend, sur qui s'appuyer. Les chefs, les prêtres, censément les maîtres les plus intelligents, sont là tout nommés pour répondre. Leur voix serait faible, ils s'appuient alors sur le Dieu, le tapu est là à leur secours. L'inspiration revêtait bien des formes, mais c'était toujours sous la forme du tapu. C'était une ordonnance religieuse, tantôt absolue pour tous, tantôt relative pour quelques personnes, ou à telle classe de personnes pour laquelle on rendait sacré tapu, c'est-à-dire hors d'usage, en les consacrant à un Dieu, tel arbre, tel fruit, telle personne,
ou l'un de ses membres,
tels animaux, tel lieu, telle nourriture, telle couleur. Au nom du tapu aussi, on prescrivait ou l'on interdisait telle action ou telle activité. Fin de citation.
Enfin, selon Dominique Pechberti, voyons comment les anciens marquisats imposaient le tapu. Elle nous dit qu'ils sont établis par les Taoua pour des raisons religieuses et peuvent concerner un objet, une période de temps, une personne, une famille, une tribu, une vallée, toute l'île, mais aussi des arbres, des animaux et des chemins. Pendant la période tapu, il est interdit de soindre le corps de curcuma cuit et camour, danses et chants sont défendus. Les chefs doivent s'abstenir d'entrer dans les maisons des femmes, de les côtoyer et d'avoir des relations sexuelles. Pour imposer le tapu sur un lieu, on l'entoure avec une cordelette de bourre de coco tressée, pou'u, ou un faisceau de baguettes pou'pa orné de bandelettes de tapa et placé sur un autel ahu. Un piquet ou une lance ornée de tapa blanc peut aussi indiquer le lieu tapu. En cas de fête ko'ika, on établit un tapu général interdisant de blesser quelqu'un, ce qui permet à tous, amis et ennemis, d'y participer. Une fois le tapu imposé, voyons quelles étaient les règles d'observation. Cette fois, c'est Greg Denning qui nous en donne des explications aux pages 247 et suivantes de sa réflexion. Les Enata ont perçu à leur façon l'espace entourant leur corps. Le tapu qui affectait leur tête déterminait posture et mouvement. Connaître les limites du tapu, c'était posséder la connaissance de leur vie en société. La violation accidentelle d'un tapu n'était pas systématiquement sanctionnée. L'infraction était une convention de groupe, au même titre que la loi elle-même. Une convention de groupe, c'est-à-dire qu'on se mettait d'accord pour savoir si c'était la peine de punir quelqu'un ou pas. Greg Denning continue, il y a dans le symbole, le rite et les gestes rituels une certaine souplesse qui leur donne un sens. Même si les prescriptions tapu ne sont pas strictement observées, la disparition de ces symboles est dommageable sur le plan personnel et social. On pouvait mesurer l'efficacité du sacré en calculant ce qu'il incluait et ce qu'il excluait. Les Enata étaient sensibles aux particularités individuelles qui conditionnent les activités sociales et à l'observance méticuleuse des normes à suivre pour se départir des déchets humains, pour savoir où marcher et où ne pas mettre les pieds. C'était un monde complexe aux règles méticuleuses sanctionnées par des menaces supranaturelles ou sociales. En fait, ils étaient plus prudents que craintifs. Ils devaient constamment surveiller leurs enfants afin d'éviter une violation accidentelle du tapu. Parfois, on gardait le secret sur des objets accidentellement rendus tapu par des serviteurs ou des kikinos afin d'éviter les inconvénients. Mais la hauteur à laquelle les aliments ou autres objets étaient accrochés au-dessus de la tête sans devenir tapu était une convention sociale. Face aux innombrables occasions de rompre le tapu par accident, par exemple un oiseau volant au-dessus de la tête de quelqu'un, un enfant tirant la barbe d'un homme, il était indispensable que les Enata maîtrisent les dimensions et les distances, l'événement et la personne, ce qui était absolu de ce qui était relatif. Cette sensibilité aux dimensions du tapu et même sa secrète inobservance sont des preuves de sa réalité. Elle démontre aussi que les infractions ne détruisaient pas la loi. Ce n'était pas parce que quelqu'un avait rompu le tapu que le tapu n'existait pas. Voyons maintenant comment on mettait un terme au tapu, quelles étaient les procédures pour lever un tapu. C'est Crook qui nous signale deux exemples dont il a été le témoin. En visite à Akapa, en octobre 1798, on se souvient que Kiato Nui, chef des Teii, ne peut pénétrer chez les gens Kikino. Il ne peut pas entrer dans la maison où se sont rassemblés ses amis parce qu'elle n'est pas tapu, alors que lui l'est. Il doit dormir ailleurs et il attend le matin pour se baigner dans la mer de Akapa et lever ainsi son tapu. Un autre exemple de levée de tapu dont nous avons déjà parlé, c'était passé à Tahuata en avril 1798, où, afin de pouvoir participer à la naissance de son petit-neveu, Tuhuaiu Hanateio, Tainai, le chef des Hema, doit s'enduire d'huile afin de perdre son tapu. En effet, une des sœurs de Tainai avait une fille qu'il chérissait particulièrement et il se rendit chez elle pour son accouchement. Afin de valoriser son bébé, Tainai s'enduit le corps d'huile pour devenir non tapu et pouvoir s'allonger carrément sous la nappe de sa nièce au moment de l'accouchement. Ainsi, la tête sous les jambes d'une femme, la naissance se passant au-dessus de la tête du chef, l'enfant prenait une importance capitale. No ho ana to uati Na te tapu e a ahi To ia e po e lua Me ki u me ki u mai I no ho ana to uati Na te tapu e a ahi To ia e po e lua I
Ihea, to'o e ka i'e ia. Ihea, to'o e ka pu ia. Ihea, to'o e to'a lui ia. Wa to'a i oto te mana o te moni.
Nous allons aborder maintenant le sujet du tapu confronté à l'arrivée des étrangers Hao'e. Ne croyant pas à ce tapu, ils ne le respectaient pas, provoquant ainsi des situations inconnues des Enan et creusant une brèche profonde dans leur culture. À nouveau, écoutons Greg Denning. Il semble évident que les Enata étaient prisonniers du tapu. Ils respectaient les tapus parce qu'ils les craignaient. Ils y dérogeaient uniquement dans le cas où ces tapus étaient incompatibles avec la compagnie des étrangers Hao'e. Ils disaient que ceux qui enfreignaient le tapu seraient atteints de la lèpre, Kovi, et qu'ils en mourraient. Lorsque l'arbre à pain ne produisait pas ou que les pêcheurs entraient bredouille, les Tawa s'en prenaient d'abord à ceux qui avaient enfreint le tapu et les recherchaient activement. Ainsi, c'est moi qui le dis, dès leur arrivée, de nombreux étrangers se moquèrent du tapu. Pour eux, il n'avait aucune importance. Il ne leur inspirait aucune crainte, indiquant ainsi aux Enana qu'ils n'appartenaient pas au même monde. C'est ainsi que, par le biais du tapu, les Enana comprirent la différence entre eux et les Hao'e. Greg Denning continue, il existait désormais une catégorie de personnes se situant hors de la dualité, tapu, meiye, sacré, profane, et ces personnes qui étaient des étrangers n'étaient ni l'une ni l'autre. Les Enana se servant du tapu comme métaphore, comme image pour mieux se comprendre eux-mêmes, l'arrivée des étrangers constitua la première avancée du doute dans leur esprit. De surcroît, et ça c'est moi qui le dis, dans cet équilibre Haka-Iki-Tapu, l'arrivée des étrangers introduisit un troisième élément qui bouleversa tout. Les Enana apprirent le commerce. Et ainsi, un nouvel ordre de rapport distinct du troc, Hoko, dont le chef était la cheville ouvrière. C'était lui qui décidait de ce qu'on devait échanger et contre quoi on devait l'échanger. Et donc, les gens traités avec les étrangers se faisant payer d'une manière directe. Cela les a amenés petit à petit à déchoir le chef de sa position centrale sur la carte du monde nouveau qui s'offrait à eux.
Greg Denning continue à la page 60 de son livre. Les étrangers étaient bien peu aptes à comprendre le Hakaiki ou le Tapu. Il leur était difficile de reconnaître une réalité politique et sociale qui n'avait ni rite ni signe pour spécifier les divers degrés de l'autorité. Lorsque les signes extérieurs dans le vêtement ou l'ornementation étaient peu accentués, ils parvenaient difficilement à discerner les différences subtiles qui mettaient à part les Hakaiki. Ils ne pouvaient pas percevoir la valeur du Hamihiapo, cette pièce de tapa rouge, faite de l'écorce d'un jeune banyan que seul le chef et son fils premier-né étaient autorisés à porter autour de la taille. Pour eux, ce n'était qu'une pièce de tapa, d'écorce d'arbre. Il ne pouvait imaginer non plus quel capital était investi dans les tatouages de son corps, ni que le pavahina, cet ornement de poils de barbe blanche d'un vieillard, ou que le poeouoho, ce bracelet de cheveux que les Hakaiki portaient aux poignets et aux chevilles, avait bien plus de valeur que tout ce que les Haoe avaient à leur proposer. Pour les Haoe, ce n'était que des cheveux, que des poils, que de l'encre sur un corps, dont les motifs et la symbolique leur étaient incompréhensibles, même si nombreux étaient ceux qui en vantait la beauté. Lorsque les rituels de déférence ne correspondaient pas à l'image de ce qui, pour eux, était poli et respectueux, les étrangers étaient incapables de distinguer les Hakaiki dans la foule des insulaires tout excités. Pour eux, le Hakaiki devait forcément porter une couronne, ou bien, en tout cas, une coiffe, un habit le montrant qu'il était le chef. Sans ces habits-là, pour eux, ce n'était pas un chef. Ils ne parvenaient pas à comprendre la raison pour laquelle la qualité sacrée du tapu était signifiée par un nom et un titre, ou par le soin que le clan prenait de tout ce qui touchait au corps du Hakaiki ou à ses vêtements. Puisqu'il pensait que la preuve suprême de l'autorité consistait dans la capacité de transmettre des instructions par l'intermédiaire d'une hiérarchie institutionnalisée et soutenue par la force armée, les étrangers ne pouvaient évidemment pas concevoir qu'une autorité n'ayant rien à voir avec l'administration puisse exister en vertu de rites célébrant des relations humaines à l'occasion d'événements qui rythmaient la vie d'un individu ou qui marquait la permanence de la tribu. Et pour clore ces trois émissions sur le tapu, écoutons la conclusion tragique que donne Greg Denning à la fin des tapus. Lorsque les Enata, hommes, seront contraints à passer sous des pagnes de femmes suspendues à la porte des chapelles, lorsque femmes et hommes seront conviés à manger ensemble une même nourriture dans un lieu tapu, lorsque la population d'une vallée sera forcée de passer sur un pont sous lequel les Tawa ont été conduits, la rupture du tapu se produisait d'une manière si dramatique et si brutale qu'elle dissolvait la structure même de la société. Il s'en suivit alors un vide, et pour les Enata, ce fut une période terrible, suicidaire pour nombre d'entre eux, car leurs symboles, leurs rites et leurs gestes cessèrent d'avoir un sens. Et moi je rajoute, et rien de ce qu'on leur proposait de nouveau ne s'harmonisait avec leur notion du temps et de l'espace. Chers amis, nous voici arrivés au terme de ces trois émissions traitant du tapu au jour le jour. J'espère qu'elles vous auront permis d'enrichir votre connaissance de ce rite ancestral Enana. Ne manquez pas la suite de notre programme au cours duquel, pendant trois émissions, nous nous pencherons sur le rôle et l'organisation des fêtes Koika. Et pour finir, nous aborderons le sujet très brûlant des sacrifices humains et du cannibalisme. À bientôt pour la suite de cette histoire touchante et passionnante des îles Marquises. Rejoignez-moi sur ma page Facebook Teeo et sur mon site internet teeo.com. Et merci à Kaveemo Etai pour la chanson Te Tapu Nui, le grand tabou, qui demande aux Marquisiens où sont passés leur fierté et leur courage, et aussi comment l'argent, ce pouvoir moderne, a pu remplacer le mana du tapu, cette loi ancestrale qui régissait la vie des anciens. Si une question vous brûle les lèvres, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail kopo@mail.pf, kopo K-O-P-O, ou sur mon Vini 87 756 719. À bientôt, à Pai, au Oahu.